Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne, il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans pitié, il y a les femmes seules et les prisonniers, il y a les infirmières et les gars du chantier, il y a les ouf, les ouaves, les toqués toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche et les Casvilles. Ce mois-ci, on a choisi de parler de la sécurité sociale. Ce thème était programmé depuis septembre. L'actualité nous a rattrapés. Campagne électorale oblige, le président de la République s'est emparé du sujet. Nous allons le traiter à notre manière, en nous appuyant sur un micro-trottoir qui se veut l'écho de la pensée de nos concitoyens. Nous débattrons de ce thème avec Yves Marty, secrétaire départemental Force ouvrière des organismes sociaux de l'Aveyron, et Serge Calmets, membre de la Ligue des droits de l'homme. Et nous conclurons cette heure avec le billet d'humeur de Dominique Ladé. C'est l'émission Urgence de ce mois de novembre. Bonne écoute.
Faut des casseroles dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la teinte pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut des forfaits pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais, c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. On s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digité. J'accuse
au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse, j'accuse, j'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait, faut des forfaits. Faudrait de l'air dans les tabacs. La salle de sport sur des machines. Faut s'essouffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces. J'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces. J'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées.
Cotiser à la sécurité sociale.
Je pense qu'effectivement, donc, dans la mesure où la sécurité sociale existe et qu'elle permet donc, aux Français notamment donc, d'être bien assurés d'un point de vue médical, il est normal que chacun participe à la hauteur de ses revenus, donc normal de cotiser, de participer de façon à partager ensemble donc, les dépenses. Enfin.
Pour tout ce qui est assurance vieillesse, retraite, maladie, les allocations familiales, voilà, ça permet de remplir les caisses. Pour redistribuer un peu à tout le monde. Après, est-ce que c'est équitable ou pas, on ne sait pas trop, mais bon, on cotise toujours.
Eh bien, je cotise à la sécurité sociale, d'une part, la première des choses, par solidarité, parce que nul n'est à l'abri d'avoir des problèmes de santé. Et ben, aujourd'hui, c'est peut-être mon voisin qui en bénéficie, et puis demain, j'en aurai peut-être besoin, et ça me paraît nécessaire, effectivement, d'être solidaire. C'est quelque chose qui me semble fondamental.
Savez-vous quand et pourquoi la sécurité sociale a été créée et sur quel principe elle a été fondée ?
Alors, moi, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est à l'issue de la résistance en 1945. Que ça a été créé. J'imagine que c'est toutes ces lois qui ont été votées juste au lendemain de la guerre de 1945. C'était effectivement pour permettre à la société française de vivre au mieux et dans la garantie d'un système égalitaire.
Moi, j'ai cotisé à la MSA. Je ne sais pas quand est-ce que la MSA a été mise en place, mais je pense que ça a été après la Sécu. La cotisation des agriculteurs, elle est au minimum, parce que souvent, ils n'ont pas voulu trop cotiser. Du coup, la retraite, par exemple, elle est minimum aussi.
Ah, ça, je ne sais pas. J'ai entendu parler mon père de ça. C'est grâce aux anciens qu'on a obtenu la sécurité sociale. Je dirais peut-être une bêtise, 36. Enfin, mon père m'en parlait beaucoup, qu'il avait lutté pour avoir la sécu.
Je crois qu'elle a été créée en 1945 par De Gaulle, mais j'en suis pas sûr.
Quels sont les risques couverts ?
Les risques d'accidents du travail, mais également les accidents domestiques. Et justement, c'est que, soi-disant, qu'on voudrait ne plus rembourser les gens, les sociétaires comme vous et comme moi, pour les accidents domestiques. Donc à ce moment-là, je me payerai ma grippe, je me payerai mon angine, je me payerai mon infarctus, je me payerai mon cancer. Enfin, tout ce qui est en mi et qui nous dérange la vie.
Alors moi, personnellement, comme je suis au RSA, je suis à la CMU. Donc, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai le remboursement de mes médicaments. J'ai une tranche à pas dépasser pour le dentaire. Mais le reste, c'est à ma charge quand je vais chez un spécialiste.
Alors, les risques couverts, il y a au niveau de la maladie en général, les frais d'hospitalisation, pour une part, parce qu'il y a une part qui revient quand même tout de même à la personne, ne serait-ce que par le biais du forfait journalier. Il y a également une seule, au niveau par exemple des arrêts maladie, pour les gens qui sont salariés, il y a une indemnisation qu'on appelle les indemnités journalières, qui correspond qu'à 50% du montant brut la dernière rémunération, qui risque d'être baissée quand on entend ce qui semble nous pendre au nez d'ici peu, ce qui semble quand même très difficile, où les gens ne choisissent pas d'être malades, ils le sont, c'est vraiment toucher les gens qui sont vraiment dans une situation de précarité et les rendre encore un peu plus précaires, notamment les gens qui ont très peu de ressources.
Oui, alors vous répondez un peu à ma quatrième question. C'est, pensez-vous que la sécurité sociale soit mise en danger par les mesures gouvernementales ?
Actuellement, tout à fait. On voit bien avec le regroupement des hôpitaux, supprimer tous les hôpitaux de proximité. On vient, alors qu'on a un service de sécurité sociale et de santé qui était très ouvert et vraiment à la portée du public, on se rend compte que de plus en plus, il n'y a que l'argent qui parle. Il faut savoir quelle est la politique qu'on veut demain ? Veut-on toute une population qui soit complètement exclue ? On va vers une sécurité sociale à deux vitesses. C'est quand même une catastrophe. Finalement, on est en train de faire une sécurité sociale plus pour les riches que pour les pauvres.
Je ne sais pas exactement. En tout cas, ce que je vois, c'est que les gens sont obligés d'aller vers le privé et que ça, c'est une vraie catastrophe parce que seuls ceux qui auront les moyens de se payer une sécurité sociale privée pourront le faire.
La sécurité sociale est mise en danger depuis que la droite a institué le régime dans lequel nous sommes, qui à mon avis est un régime de plutocrate, c'est le fric qui commande, c'est pas les hommes. Dans ces conditions, il n'est pas possible que ce soit les besoins qui priment, c'est le profit.
Les assurances privées peuvent-elles se substituer à la sécurité sociale ?
Alors là, je dis non. C'est niette catégorique. Non, je pense que la Sécu est construite sur un principe fondamental. Je trouve que c'est tout le monde participe, tout le monde. Un pour tous, pour un, comme on dit, je crois que c'est
mousquetairement.
Ah oui, il faut.
Pour certaines personnes, peut-être, qui ont les moyens, mais moi, personnellement, le jour où j'ai plus la CMU, eh bien, je me soigne plus. Je ne vois pas comment je ferais.
C'est un vrai scandale. Ça devrait être un service. La mutualisation, elle se fait à la manière d'un service public. Quoi. Ça devient un service pour la collectivité. Et entamer ce service pour la collectivité par des mesures qui vont mettre la concurrence en place, c'est absolument scandaleux.
Et il y aura des profits qui partiront ailleurs. Et puis c'est toujours ceux qui spéculent qui prennent leur part.
On n'a pas le choix, mais ça s'adresse finalement aux gens qui ont les moyens de pouvoir se payer une assurance privée. Mais pour les plus démunis, eh bien effectivement, c'est une vraie catastrophe parce que les gens finissent par ne plus se soigner. Et ça, c'est vraiment plus dans l'esprit de solidarité du départ.
Mais non. Mais non. Mais non. On a râlé, réclamé, proposé, imaginé. Mais non. On a rêvé, rigolé, espéré. Mais non. Et défilé. Mais non. On a pleuré, supplié, exigé. Et menacé. Mais non. On a parlé, inventé, expliqué. Mais non. On s'est fait chier. Bon non. On nous a nié, renié, étouffé, assassiné. Mais non. On nous a fermé, bâillonné, humilié. Mais non. Éparpillé, mais non. On a résisté, existé, continué, tout en fierté. Ben oui. On va repenser, nous souhaiter bonne année. Ben oui. On va aimer. Ben oui. Mais oui. Mais oui. Bah oui.
Monsieur Yves Marty, bonjour.
Bonjour.
Donc, nous vous invitons à parler aujourd'hui de la sécurité sociale. Vous connaissez très bien la sécurité sociale, puisque vous avez eu dans ce domaine-là des responsabilités. Et je pense que le premier point, ce serait de faire un petit historique, sans pour autant entrer dans les détails, mais montrer ce qui existait auparavant, c'est-à-dire, disons, il y a deux siècles, et ce qui est advenu depuis et qui a mis en place, sur un terme plus ou moins long, la sécurité sociale que nous connaissons.
Bon, écoutez, oui, une responsabilité essentiellement syndicale, mais pas tellement administrative, si ce n'est que, bon, j'ai une pratique de la sécurité sociale, puisque j'en suis salarié depuis le 8 janvier 1973. La sécurité sociale, on peut remonter, oui, vous avez parlé de deux siècles, oui, ce qui nous situe dans les années 1810-1830, où on avait un système d'assistance publique, et un système de libre prévoyance, disons. Bon, après, les systèmes ont évolué. Fin du 19e siècle, on est passé à un système d'assurance sociale. Mais l'étape la plus importante, à mon avis, sur laquelle il faut insister, c'est la naissance, je dirais, de la sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'ordonnance de du 4 octobre 1945 qui a mis en place donc la sécurité sociale. Et il y a eu depuis toute une série d'ordonnances ou de lois ou de conventions qui ont mis en place tous les systèmes d'organisation de la sécurité sociale que nous avons aujourd'hui. Donc, pour l'historique, disons, voilà en gros l'historique, mais on pourrait aussi peut-être parler de l'objectif. Quel était l'objectif des générations qui nous ont précédés et qui ont mis en place donc cette sécurité sociale? Il ne faut pas oublier que, donc, comme je l'ai dit, qu'il faut remonter un peu l'historique pour se rendre compte qu'il y a eu une évolution pour en arriver au système que nous connaissons, que nous avons encore à ce jour, et que les différentes générations ont dû lutter, se battre pour obtenir donc le système que nous avons aujourd'hui. Il est issu également, j'aurais peur de le dire, en partie des réflexions du Conseil national de la Résistance également. Alors donc, date importante, 4 octobre 1945, où nos prédécesseurs donc ont prévu un réseau coordonné de caisses, donc se substituant à de nombreux organismes qui existaient par le passé. Il faut aussi savoir que l'unité administrative, qui était l'objectif de départ, n'a pas été atteint et n'est toujours pas atteint à ce jour. L'objectif, c'était d'avoir une sécurité sociale universelle pour l'ensemble des citoyens du territoire. Or, vous le savez, ou nos interlocuteurs le savent, les professions agricoles ont voulu rester indépendantes un certain temps. Les salariés des professions agricoles, les salariés et les exploitants agricoles ont souhaité rester indépendants un certain temps. Ils le sont toujours, par le biais de la mutualité sociale agricole. De même que les professions indépendantes, ce qu'on appelle donc, oui, ce qu'on appelle aujourd'hui le RSI. C'est donc la protection sociale, la sécurité sociale des travailleurs indépendants et des professions libérales. Et puis on connaît encore aujourd'hui certains secteurs où il y a ce qu'on appelle les régimes spéciaux, qui sont, bon, on peut en citer quelques-uns, mais qui sont encore indépendant du régime général de la sécurité sociale, le régime des fonctionnaires, le régime des marins, des cheminots, des mineurs, des étudiants, enfin bon voilà, il y a quelques régimes, quelques branches d'activité qui ont leur régime spécial. Donc voilà, après, bon, je ne sais pas si on pourrait rentrer dans le détail, mais à partir de ce socle-là, s'est bâti donc, je dirais, l'édifice sécurité sociale. Alors, les plus importants, si vous voulez, c'est les conventions collectives interprofessionnelles qui ont instauré les régimes de retraite complémentaire obligatoires. D'abord pour les cadres, 1947, plus tard, 1952, pour les salariés. C'est ce qu'on appelle l'ARCO, qui est le régime de retraite général obligatoire pour tous les salariés, donc du régime général.
On avait posé dans le micro-trottoir la question « Quels sont les risques couverts ?» et beaucoup de gens nous disent « Ah mais non, mais la retraite, ça ne fait pas partie de la sécurité sociale. »
Alors,
Oui, alors c'est, votre réflexion est très intéressante et elle permet, oui, d'expliquer un petit peu, et c'est un petit peu la raison d'être, je crois, de la sécurité sociale, c'est que la sécurité sociale a été faite, a été inventée pour que l'individu, les ménages, puissent faire face à l'ensemble des aléas que l'on peut rencontrer tout au long de la vie. De la naissance, je dirais, jusqu'à la mort. La sécurité sociale vient en aide aux gens, aux assurés sociaux, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, chaque fois qu'ils rencontrent une difficulté qui survient, qui peut survenir à n'importe lequel d'entre nous, du jour au lendemain. La sécurité sociale, c'est donc une institution basée sur la solidarité. La solidarité entre les bien portants et les malades, c'est-à-dire la solidarité des bien portants envers les malades. Lorsque vous êtes malade, gravement malade, vous ne pouvez plus travailler. Vous êtes obligé d'arrêter votre activité professionnelle. Si vous arrêtez votre activité professionnelle, vous n'avez plus de revenus. La sécurité sociale permet, dans ces cas-là, vous permet de percevoir un revenu de remplacement, qu'on appelle indemnité journalière. On essaiera d'y revenir un peu plus tard, parce qu'on en parle beaucoup, des indemnités journalières en ce moment, c'est d'actualité. Mais donc, la sécurité sociale, elle permet ça. Lorsque une mère de famille est obligée de s'arrêter parce que le couple décide d'avoir un enfant, pendant l'arrêt obligatoire, puisqu'il faut obligatoirement s'arrêter pour mettre naissance à un enfant et l'élever dans les premières semaines qui suivent l'accouchement, la sécurité sociale apporte un revenu de remplacement à la jeune maman. Lorsque vous êtes donc malade, on vous prend en charge une partie de votre salaire. Il peut arriver que vous êtes malade et que vous ne guérissez pas. Donc, parce que vous avez un handicap, parce que bon, vous avez un problème de santé physique, je dirais. La sécurité sociale intervient, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la pension d'invalidité. Lorsque vous vous faites mal à votre travail ou que les conditions de travail engendrent pour vous une maladie d'ordre professionnel, il y a réparation. Réparation parce que vous avez un préjudice, un handicap dû à l'accident ou à la maladie professionnelle que vous avez contacté sur le lieu de votre travail. Donc, la sécurité sociale, c'est tout ça. C'est l'assurance maladie, c'est la maternité, c'est l'invalidité, c'est le décès. Parce que lorsque vous décédez, notamment pendant votre activité professionnelle, la sécurité sociale verse aux héritiers survivants, pour les aider à faire face éventuellement dans les premiers instants suite au décès, un capital décès. La sécurité sociale, c'est la retraite, la vieillesse. Quand vous ne travaillez plus, vous avez la possibilité de percevoir un revenu jusqu'à la fin de vos jours. C'est ce qu'on appelle la retraite. Vous y avez droit, certes, vous la méritez, puisque pendant que vous avez travaillé, vous avez payé une cotisation. Ça, il faudrait aussi peut-être le dire, c'est que la sécurité sociale, c'est dans le cadre du financement, on y viendra peut-être un peu plus tard, mais on paye des charges lorsqu'on est salarié, sur son salaire, sur le salaire des salariés, il est retenu certaines sommes qui vont abonder donc les régimes de sécurité sociale. De même que les employeurs paient également des cotisations sociales pour financer les régimes.
Monsieur Marty, vous nous avez présenté les divers domaines couverts par la sécurité sociale. La sécurité sociale fonctionne sous l'autorité et sous la garantie de l'État. Or, actuellement, l'idéologie néolibérale considère que tout ce qui relève de l'économie doit passer sous l'autorité du marché. Et je pense que toutes les assurances garantissant contre la maladie, comme la sécurité sociale, ne sont pas sous l'autorité toute de la sécurité sociale. Il doit y avoir des organismes privés qui assurent aussi des avantages identiques à la sécurité sociale. Des organismes évidemment payants. Qu'en est-il actuellement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui. Alors, par rapport à ça, Par rapport à ça, l'État, c'est pas l'État qui gère directement la sécurité sociale, il faut aussi le dire. L'État, la sécurité sociale est la propriété des partenaires sociaux. C'est une institution qui est gérée paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, c'est-à-dire les organisations syndicales, au niveau national, comme au niveau régional, comme au niveau local. L'État jouant un rôle de tutelle. Alors, vous m'avez parlé des compétences de la sécurité sociale et par rapport au secteur privé. C'est un débat qui existe depuis longtemps, mais qui, j'espère, ne va pas évoluer. Il faut souhaiter, pour l'ensemble de la population, que la sécurité sociale que nous connaissons aujourd'hui soit préservée. Et je m'explique. Vous avez parlé de marché, vous avez parlé de néolibéralisme. Je crois que dans le domaine de la santé, la priorité, c'est l'efficacité. C'est que chaque citoyen, où qu'il se trouve, quel que soit son niveau social, soit soigné de la même manière. C'était d'ailleurs l'objectif des créateurs de la sécurité sociale. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez blanc ou noir, il faut que vous soyez soigné, traité par la sécurité sociale de la même manière, et c'est ce que garantit aujourd'hui le système de protection sociale que nous connaissons en France. Si vous voulez faire un comparatif en matière de gestion, parce que quel est l'objectif de l'assureur privé ? L'objectif de l'assureur privé, et c'est normal, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du profit. C'est pas l'objectif de la sécurité sociale. Alors, si nous n'avions pas le régime que nous avons et que nous devions aller frapper à la porte des assureurs, eh bien, qui c'est qui pourrait se soigner le mieux ? Ce serait celui qui a beaucoup de moyens. Et celui qui n'a pas de moyens n'aurait pas la possibilité de se soigner, d'une part parce qu'il n'aurait pas les moyens de payer suffisamment, et l'assureur privé ne serait pas intéressé par celui qui n'a pas les moyens parce que du jour au lendemain, il pourrait ne pas être solvable. Ça, c'est le premier motif. Deuxième motif, pourquoi il ne faut pas que ce soit les assurances privées qui gèrent notre système obligatoire ? Parce que ils sont moins bons que le régime général. Les coûts de gestion des assureurs, ça tourne entre 10 et 20%. Les coûts de gestion de la sécurité sociale que nous connaissons en France, c'est entre 3 et 4%. Alors, vous voyez que le régime général est meilleur pour gérer la protection sociale dans notre pays que les assureurs privés.
Oui, je voulais un peu rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que dans l'assurance privée, enfin, on le voit par exemple sur une voiture, si tu as trop d'accidents, l'assurance, s'il ne gagne pas d'argent sur ton dos, eh bien, il te vire. Donc ça veut dire que l'assurance privée, si tu es trop malade, c'est pareil, il ne te garde pas. Et on a même l'exemple, là, il y a récemment une publicité d'une mutuelle qui dit, mais si vous n'êtes pas malade, on vous rend de l'argent. Et ça dit que c'est l'inverse de la sécu, c'est-à-dire que, autrement dit, bon, c'est une bonne mutuelle à condition de ne pas, pas être malade. C'est-à-dire qu'on vous assure si tu n'es pas malade.
Non, mais bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. C'est bien pour cela que si vous n'êtes pas malade, évidemment, l'assureur, ça va vous intéresser, mais le jour où vous allez être trop malade, ça ne va plus intéresser. Et alors, il va vous faire payer beaucoup plus cher et vous n'aurez pas les moyens de payer. Donc, c'est pour cela que le système égalitaire disparaîtrait si le régime de sécu que nous avons aujourd'hui venait à disparaître.
Oui, la prise en charge donc de tous ces domaines relevant de la santé, ça représente quand même, au point de vue financier, quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement du financement de la sécurité sociale ? Sous quelle forme est-elle financée ?
Écoutez, oui, c'est évident. Le chiffre, comment dire ça ? Le budget de la sécurité sociale est supérieur au budget de l'État. Alors, il est évident que les masses financières brassées sont considérables. Mais je vous ai dit que c'était donc un organisme qui était géré paritairement. Et c'est logique, car il est alimenté par les cotisations donc des salariés et des employeurs. Alors, le financement, c'est en gros, c'est 70%, ce sont les cotisations que nous versons, tous. Ensuite, il y a à peu près 25-28%, c'est de l'impôt ou des taxes, mais ce sont nous qui les payons aussi, parce que l'essentiel de cette ligne budgétaire, impôt et taxes, c'est essentiellement la CSG, qui a été créée en 1993, donc, et qui est recouverte donc par les URSSAF, parce que ça, on devrait le dire, on paye nos cotisations, ce sont les URSSAF qui recouvrent les cotisations, et là aussi... petite parenthèse, les URSSAF sont efficaces, c'est-à-dire qu'elles recouvrent à peu près entre 97 et 98% des sommes recouvrables. Vous comparerez un petit peu avec les impôts, avec tous les organismes que vous souhaiterez, les URSSAF sont de loin les meilleurs. Là aussi, je pense que si on avait affaire à du secteur privé, on en serait loin de ce type de résultat. Donc les URSSAF recouvrent ces cotisations et les redistribuent après à l'ensemble des régimes, maladie, accident du travail, famille, en fait, etc. Donc l'essentiel des financements est assuré donc par les employeurs, les salariés, c'est-à-dire c'est le fruit du travail.
Nous pouvons aborder la question dont on parle beaucoup de nos jours, la question du déficit de la sécurité sociale. Alors je me permets aussi de dire mon point de vue là-dessus, qui est basé sur ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche dans les journaux. Apparemment, le financement de la sécurité sociale s'appuie aussi sur des taxes, et une part de ces taxes, justement, ne sont pas reversées à la sécurité sociale. Il semblerait donc que le déficit serait moindre si on appliquait les règles qui veulent que les taxes perçues sur ceci ou sur cela, je pense sur l'alcool, sur le tabac ou autre, si ces taxes étaient reversées à la sécurité sociale, il est probable que nous n'aurions pas de déficit. Que pensez-vous de cela ?
Mais je partage totalement votre analyse. Je dirais même que vous êtes gentil parce que c'est énorme. C'est énorme. Les charges indues qui sont supportées par la Sécu, les non-compensations financières qui devraient être effectuées soit par l'État, soit par les employeurs qui ne sont pas faites, ça se chiffre en milliards d'euros. Alors, certes, on a un déficit qui est important, mais qu'il faut aussi relativiser. Jusqu'aux années 2007-2008, on tournait sur un déficit de l'ordre de à peu près entre 8 et 10 milliards d'euros. Quand on sait que le montant total des dépenses de santé, c'est autour de 300 milliards d'euros, vous voyez que ça ne représente pas grand-chose. C'est 4-5% à peu près. Mais c'est vrai, et vous l'avez dit, il y a tout un tas de charges qui incombe à la Sécu, qui ne devrait pas lui incomber. Il y a tout un tas de... Vous avez parlé des taxes sur le tabac, la taxe sur les alcools, la formation professionnelle des professions médicales, paramédicales, qui sont assurées par la Sécu. Bon, il est normal que les professions médicales aient des formations, ça paraît logique si on souhaite être bien soigné, mais est-ce que c'est normal que la Sécu participe à tout un tas de charges auxquelles elle participe ? Je n'en suis pas certain. L'ensemble des exonérations de charges patronales pour favoriser l'emploi. Alors, celles qui favorisent l'emploi, on peut accepter à la limite que les employeurs soient exonérés de charges quand ça les bloque pour pouvoir embaucher. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a tout un tas d'exonérations de charges patronales qui sont de circonstances et qui ne favorisent pas du tout l'emploi et qui ne sont pas reversées parce que l'État qui décide par la voie législative certaines décisions, par exemple d'exonération de charges sociales pour les employeurs, s'engagent, quand il le fait, à reverser l'équivalent de ces exonérations à la sécurité sociale. Il ne le fait pas, ou il ne le fait que marginalement. On pourrait citer des exemples, la compensation, ça également aussi. Bon, ça c'est un problème de solidarité, mais vous avez tout un tas de régimes particuliers. J'ai parlé tout à l'heure des exploitants agricoles et des salariés agricoles. La mutualisation agricole a un déficit qui est normal, puisqu'on a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de retraités actifs et de plus en plus de retraités. Donc ça crée des déséquilibres. Bon, le régime général vient en compenser et à la sortie, on se retrouve avec un déficit important. Mais je voudrais aussi dire quelque chose qui me paraît d'actualité là, c'est qu'actuellement, on se sert de la sécurité sociale comme un jeu politique en culpabilisant l'assuré social. Et ça, je trouve que c'est pas bien. On monte en épingle un petit peu les problèmes de fraude actuellement. Alors certes, il faut éviter au maximum qu'il y ait des fraudes, puisque c'est de l'argent public et de la collectivité. Mais, vous savez, j'ai pas le chiffre exact, mais les fraudes, ça pèse pas lourd dans le budget de la sécurité sociale et dans le déficit que nous connaissons actuellement. Donc je crois qu'il ne faut pas tromper les gens en avançant des arguments qui peut-être peuvent impressionner ou paraître ne sont pas normaux, mais il faut pas jouer là-dessus. De la même manière que on nous impose un quatrième jour aujourd'hui, un quatrième jour de carence en cas d'arrêt de travail dans le secteur privé et un premier jour de carence dans le secteur public, parce que on n'a pas réussi là où on voulait économiser des sous, de l'argent, pardon, en diminuant les indemnités journalières des assurés sociaux. On le fait d'une autre manière, on leur vole un jour d'indemnisation. Donc voilà, du financement, oui.
Oui, mais par rapport aussi au discours de la fraude, moi je me demande aussi si l'idée c'est pas d'essayer de dire, mais écoutez, la sécurité sociale ça sert qu'aux fraudeurs. C'est finalement de dénaturer le rôle de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ça va plus loin que ça, c'est la remise en cause peut-être. C'est qu'un début, mais la remise en cause du principe de la sécurité sociale. C'est ça auquel il faut faire attention. Parce que souvent, quand on veut mettre à terre un système, on commence par dire, vous voyez, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal. Et c'est ça, contre ça, qu'il faut faire très attention. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez là par rapport à ça.
Non, mais bien sûr, je suis bien d'accord. Figurez-vous que nous, bon, de l'intérieur, je crois qu'on le voit encore mieux. On a l'impression, oui, qu'on l'attaque. Hein. On ne fait ressortir que ce qui ne va pas bien, le déficit, la fraude, que sais-je encore. Mais à côté de ça, on ne parle pas de tout ce qui va bien et de tout, je dirais de tout ce service, de toute cette valeur ajoutée qu'apporte la sécurité sociale à l'ensemble des citoyens de ce pays. Mais ça, on ne le dit pas. Les prestations familiales, nous n'en avons pas parlé, on aurait peut-être dû en parler, c'est très important aussi, la branche famille, toute l'aide qu'apporte la famille également à la naissance, pour les enfants, pour la rentrée scolaire, pour le logement, tout ça, on n'en parle pas. Alors, évidemment, on parle d'un médecin ou d'un cabinet médical qui a fraudé, ou d'un assuré social qui peut-être... Ça aussi, les indemnités journalières, il y a trop d'arrêts de travail. Donc, c'est pour cela qu'on essaie de taper là-dessus. Il y a trop d'arrêts de travail. Mais savez-vous que les statistiques des services médicaux de la Sécu disent que sur 100 arrêts de travail, quand ils en contrôlent 100, ils arrivent à en trouver peut-être 3 ou 4, et encore, ils ne savent pas, parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler au moment où le prescripteur prescrit l'arrêt de travail. On ne peut aller contrôler que 2, 3 ou 4 jours après, et là, l'état de santé déjà peut avoir évolué, mais malgré ça, il y a 3 ou 4% d'arrêts de travail qui, peut-être, ne sont pas toujours justifiés à 100%. Alors, bon, vous voyez que je crois que nous avons un régime qui est exemplaire, qui est envié de tous les autres pays au monde, presque. Alors, je crois qu'il faut qu'on se batte et qu'on soit conscient que c'est important et qu'il faut se battre pour le préserver, pour tout ce que ça représente, donc de la naissance à la mort, la famille, la maladie, la retraite, l'accident du travail, etc., etc.
Je voudrais revenir sur la notion de fraude à la sécurité sociale. Lorsqu'on parle de fraude à la sécurité sociale, il est toujours question des gens, des bénéficiaires de la sécurité sociale. Mais par ailleurs, est-ce qu'il n'existe pas une fraude de la part de ceux qui sont tenus de financer justement la sécurité sociale avec diverses taxes? Je ne connais pas tout cela, mais je pense qu'il n'y a pas que des bénéficiaires qui fraudent, il y a aussi certains qui doivent amasser des fonds. Est-ce que vous avez quelques notions?
Enfin, ce n'est pas que les assurés sociaux qui fraudent la sécurité sociale. Le travail. Bon, je vais peut-être attaquer un sujet qui peut être sensible, mais le travail dissimulé n'est pas que la cause des assurés sociaux ou des salariés. Le travail dissimulé, il est organisé souvent par des employeurs, voire pas que des employeurs, des fois. Et c'est sûr que là, c'est grave. Ça aussi, c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale. Alors, il va de soi que s'il n'y avait pas de fraude, s'il n'y avait pas de travail dissimulé, on ne connaîtrait pas. S'il n'y avait pas l'État qui ne respecte pas ses engagements en matière de compensation régions, quand il décide l'État, quand il crée par exemple le RMI ou le RSA, il le fait par voie réglementaire. Mais il confie cette gestion-là aux organismes sociaux. Et il dit aux organismes sociaux, on prendra les dispositions pour que budgétairement, l'État compense cette nouvelle prestation. Mais il ne le fait pas, l'État. Alors, à la sortie, évidemment, la sécurité sociale, elle a des problèmes de gestion. On lui impose des voies réglementaires ou législatives qu'elle doit mettre en place, mais on ne lui donne pas le budget correspondant. Donc, à la sortie, bien sûr, elle affiche des résultats qui sont déficitaires. Moins 8 milliards, moins 12 milliards, moins 15 milliards. Vous savez, moi, bien sûr qu'on se sert de ça. On se sert de ça pour attaquer le système, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais réfléchissons 3 secondes. Les problèmes de chômage, problèmes de crise actuellement. Si on n'avait pas eu ces problèmes de crise depuis 3 ans, le déficit qu'on a aujourd'hui, qui est à 20 milliards, il serait peut-être qu'à 7 milliards. Si on avait 500, 800 000 chômeurs de moins, bien du déficit, on n'en aurait pas, parce que tout ça, ce sont des cotisations en moins. Et c'est des prestations en plus, même si le chômage, c'est pas la sécurité sociale, c'est la protection sociale dans son ensemble. Mais c'est quand même la collectivité, et ce sont quand même des organismes qui viennent en aide aux gens qui se trouvent en difficulté.
Et concernant l'évolution actuelle donc de la sécurité sociale, bon, certains considèrent, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il serait peut-être bon de faire passer la sécurité sociale sous l'autorité des marchés. Quelle est l'évolution qui se profile actuellement? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de réticence, évidemment de la part des assurés sociaux, certainement, mais de la part aussi des gens qui travaillent à la sécurité sociale? Est-ce que, je parle évidemment de toutes les personnes, depuis les niveaux les plus élevés jusqu'au niveau des fonctionnaires de base, est-ce qu'il y a une résistance face à une telle tendance? Et d'abord, est-ce qu'une telle tendance existe?
Alors, bon, j'ose espérer, il va de soi que les milieux financiers ou capitalistes souhaiteraient que les assurances privées puissent devenir régime obligatoire, c'est-à-dire remboursé dès le premier euro. Depuis longtemps, y compris les organisations syndicales au niveau national, depuis un certain temps, nous sommes inquiets. Mais je pense que, est-ce que la crise aura ça de bon? Je vais pas dire qu'une crise a quelque chose de porteur ou d'intéressant, mais je pense qu'actuellement, depuis quelques mois ou quelques années, j'ai l'impression, de l'intérieur et du peu d'expérience que j'ai, que les assureurs privés, actuellement, à ce jour, semblent un petit moins gourmands que ceux qu'ils auraient pu l'être il y a 3, 4 ou 5 ans. Maintenant, il ne faut pas relâcher il faut être convaincu qu'il faut toujours faire attention, être vigilant. Voilà, il ne faut pas relâcher notre vigilance par rapport à ça, parce que, vous savez, ça peut aller très vite. Mais je pense que de plus en plus de gens, y compris les hauts fonctionnaires, y compris des politiques, et là, je crois que des politiques de tous bords sont conscients que nous avons plutôt intérêt à garder notre régime de protection sociale tel que nous l'avons, basé sur la solidarité des bien portants envers les malades ou des actifs envers les retraités. Ce régime de solidarité qui fait qu'il y a toujours un financement qui est assuré des uns par rapport aux autres. Alors que dans le système privé, vous savez, vous irez contracter vous-même individuellement votre contrat, et comme on le disait tout à l'heure, ce sera le même principe que pour la voiture. Si vous n'êtes pas malade, bon, ça ira, et si vous êtes malade, attention. Donc si vous êtes trop malade, comment vous faites? Eh bien, vous ne pourrez plus vous soigner.
Et concernant maintenant le personnel qui travaille à la sécurité sociale, est-ce qu'il est question, comme pour l'éducation nationale, comme pour la police, de supprimer des postes, enfin de ne pas remplacer les gens qui partent à la retraite, ce qui poserait quand même pas mal de problèmes, on le voit déjà, justement, avec l'éducation nationale ou la police, ça pose pas mal de problèmes. Où en est-on pour ce qui est la sécurité sociale?
Je peux vous expliquer ça, parce que là je suis en plein dans le domaine, et je me bats pour ça, moi, depuis que je suis salarié, presque. Nous avons exactement le même problème Et nous les avons eu beaucoup plus tôt. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé parce que le personnel sécurité sociale est un personnel de droit privé, avec convention collective comme toute l'entreprise du secteur privé. Sauf que nous rendons un service public. Mais nous avons entamé au sein de l'institution de sécurité sociale une politique de diminution des effectifs depuis les années 92-93. Parce que l'informatique nous y a aidés, mais aujourd'hui, nous appliquons plus sévèrement que dans la fonction publique en général, quand vous parlez de la police, de la fonction publique d'État, disons, où on supprime, on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. À la sécurité sociale, c'est pire que ça. Bon, nous avons un réseau départemental. Suivant les départements, ça peut varier, mais en moyenne, nous remplaçons 40% du personnel qui part à la retraite. Alors, pour cela, je vais vous donner un exemple. Caisse primaire de l'Aveyron, 1989, 287 employés sur l'ensemble du département. 31 décembre 2010, 195 employés. C'est-à-dire, bon, un peu plus de 20 ans, nous avons perdu 40% du personnel, plus que ça même, plus que 40% du personnel. Enfin, oui, presque 40% du personnel, entre 35 et 40% du personnel. Donc vous voyez que, mais bon, il va de soi que comme partout, on demande au personnel de faire des efforts, qui fait des efforts, mais le souci, c'est qu'en même temps, on nous demande de rendre un service de qualité, et qu'on a de plus en plus de mal à rendre ce service de qualité, parce que notre priorité, c'est de rendre service aux gens qui nous sollicitent, aux assurés sociaux qui ont besoin de nous. Et bien sûr, on participe nous aussi, même si je vous ai dit qu'en coût de gestion, et les coûts de gestion de l'assurance maladie, c'est ça, c'est le personnel, eh bien, nous sommes nettement bien meilleurs que les assurances privées, que le secteur privé.
Mais nous avons appris beaucoup de choses. Je nous remercie, Yves Marty, pour la participation à notre émission. L'émission Urgence se poursuit en musique. Et nous retrouvons Dominique Ladé pour son billet d'humeur.
Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Les dégâts, les excès, ils vont vous les faire payer. Les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous, on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous, on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti, tout est faux. Oh mon ami, oh mon frère, tout sonneur perdu pour la guerre, tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux, des papiers, dis tu l'as vu mon palais, oh t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité. Enfin, il y a tout ce que vous aimez, vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal. C'était loin du féodal. Oh, maintenant, c'est
côté, plus ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal, Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les taux, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. Des gagnants ni des perdants.
Bonjour, c'est Dominique. La liberté reste au centre de mes réflexions encore ce mois-ci. Elle se conjugue de tellement de manières, elle rencontre tellement d'entraves. Elle est l'un des trois piliers de notre République. L'intervention d'un pays ou d'un groupe de pays dans la vie d'une nation souveraine, sans y être invité par ses dirigeants, est-ce une atteinte aux libertés de cette nation ? Est-ce une atteinte aux libertés de ce peuple ? En d'autres termes, quand commence le droit d'ingérence et d'ailleurs, avant tout, est-il légitime ? Peut-on faire le rapprochement avec ce qui se passe avec des personnes, c'est-à-dire à partir de quand ou de quoi une personne ou une autorité collective peut-elle intervenir dans ce que ce tiers considère comme légitime ou supérieur à la liberté de vivre d'un couple, d'une famille ou d'une nation ? À partir de quand ? Éternelle question est tout à fait légitime. Réponse normale, quand un juge, de façon contradictoire, en a décidé. Mais pour les nations, c'est l'ONU qui est souvent reconnue comme juge. Et pourtant, c'est une institution entièrement politique, qui est bien incapable de prendre des positions justes par rapport à une loi qui, de toute façon, n'existe pas. Il faudrait donc au moins trois conditions. La première, qu'il y ait une demande, et ou un constat d'un danger grave ou d'un manquement important à une loi qui est aujourd'hui inexistante. La deuxième, qu'il y ait une instance reconnue par tous, du type de tribunal international. Et la troisième, des moyens d'agir, comme par exemple la force internationale, ONU ou autre. Et pour que cela soit encore plus efficace, il faudrait que les dirigeants eux-mêmes puissent répondre de leurs actes devant des juges, soit dans leur pays, soit au niveau d'un TI, d'un tribunal international. Ce n'est pas qu'une question de l'existence ou non d'une loi, c'est aussi et surtout la question de la délimitation du mandat des élus. Je ne pense pas que Bachar el-Assad ait été élu pour massacrer son peuple et profiter de tous les leviers du pouvoir pour s'enrichir et enrichir ses proches. Je ne pense pas non plus que le président français ait été élu pour profiter grassement des avantages de sa fonction alors qu'il soumet les plus pauvres des Français à encore plus de rigueur. J'en veux pour exemple la suite à Cannes à 37 000 euros la nuit ou la nomination de tel ou tel proche à des fonctions incompatibles avec leurs compétences. Il est vrai que ce n'est pas aussi vital. Mais dans un autre genre, pour moi, c'est aussi un signe fort de maltraitance qui remet en question la délimitation du mandat des élus. Je note au passage que dans certains pays scandinaves, les élus peuvent être reconnus responsables devant les tribunaux s'ils prennent des mesures contraires à leurs engagements au mépris de l'intérêt de leurs électeurs. Je m'égare. Quoique. Donc, droit d'ingérence, ou pas. Pendant qu'une fraction assassine les opposants de plus en plus nombreux, que font les dirigeants des autres pays ? Eh bien, comme les voisins d'une famille maltraitante, chacun hésite. Même avant de dénoncer les faits, ils n'interviennent pas. Mettre en balance les bons rapports de voisinage, les avantages liés à ces bonnes relations, entraide, non-agression, avantages financiers ou commerciaux. De quel droit intervenir ? Et comment intervenir ? Avec quels objectifs ? Fin de la maltraitance du peuple ? Mise en place d'un régime plus proche de nos idées ? De nos intérêts ? C'est de tout cela qu'il s'agit. C'est pour cela que l'absence de loi écrite internationale rend plus difficile, moins aisée et donc moins rapide la décision d'une intervention. Il faut en passer par la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU, instance hautement politique où les enjeux de pouvoir et d'influence sont la règle du jeu permanente. Donc, pas d'instance neutre ou professionnelle comme un tribunal. Et pendant ce temps-là, des enfants, des femmes et des hommes souffrent et meurent régulièrement tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Il faut poursuivre évidemment la mobilisation de toutes les énergies individuelles et collectives pour dénoncer et combattre la maltraitance sous toutes ses formes, maltraitance d'individus et maltraitance de groupes d'individus, homophobie, xénophobie, etc., mais aussi maltraitance de groupes ethniques, tibétains, kurdes, juifs, arabes, et évidemment il y en a beaucoup d'autres, ou religieux, bouddhistes, catholiques, protestants, juifs, musulmans, etc., ou de nations entières, la Syrie, le Yémen, l'Iran, l'Égypte. Malheureusement, la liste n'est pas terminée. Donc, maltraitance par leurs bourreaux. Dans la grande majorité des cas, mais pas tout le temps, il est vrai, la maltraitance vient de ceux qui sont censés vous protéger, de ceux dont c'est le rôle, la fonction même. Donc, la mobilisation de toutes les énergies vers la reconnaissance d'abord, la lutte et enfin peut-être la disparition de ces fléaux de l'humanité. Plotte et ensuite Thomas Hobbes disaient « L'homme est un loup pour l'homme ». Pauvre bête. Aujourd'hui, je me sens un peu plus orphelin. Comme beaucoup de Français, défenseurs des droits de l'homme, de sa dignité et d'une certaine idée de la France, une grande dame nous a quittés. Danielle Mitterrand s'est éteinte. Je voudrais saluer la militante engagée sur le terrain des droits de l'homme, la fondatrice et présidente de France Liberté, qui disait « La vie a voulu que je parcours un long chemin dans le temps. Le destin m'a donné l'occasion de fouler de nombreux tapis rouges et de rencontrer les grands de ce monde. Mais il m'a surtout permis de côtoyer des populations de tous les continents, d'entendre les témoignages d'hommes et de femmes oubliés du bonheur de vivre et accablés par la misère. Les tapis rouges des voyages présidentiels ne m'ont pas égaré, pas plus que les lustres ne m'ont ébloui. J'ai vu s'effondrer des dictatures, d'autres se constituer avec la protection de parfois l'encouragement des puissants de ce monde. J'ai vu s'écrouler le communisme comme un château de cartes, bousculé par les peuples qui ne supportaient plus le mépris de ses dirigeants. Aujourd'hui, j'observe un capitalisme qui se fissure et se détruit lui-même, victime de sa démesure totalitaire et de son mépris pour les valeurs humaines non marchandes. 25 ans après avoir créé France Liberté, les raisons d'être de la Fondation sont toujours valables. J'ai eu la chance de voir des situations changer. Nous avons même gagné certaines de nos combats. Mais une trop grande partie de l'humanité reste au bord du chemin et subit de plein fouet les folies de notre système. Le changement climatique en est un exemple. Une fois de plus, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables qui seront les premiers à payer pour notre mal-développement. C'est pour cela que les actions que nous menons à la Fondation pour favoriser l'accès à l'eau pour tous, pour redéfinir les véritables richesses et pour reconnaître et respecter les droits des peuples me semblent toujours aussi nécessaires et essentielles. Au revoir, madame.
Merci Dominique, c'était Urgence, l'émission de la Ligue des droits de l'homme. Nous nous retrouvons le mois prochain. Le thème choisi est Presse et liberté. Merci d'être resté à notre écoute.
Il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Il y a des rodéos,
il y a des rodéos,
et la France d'en bas. Des bourgeois, celle dit des prolos. Y'a les petits fils à papa et les cadres sociaux. Y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers. Y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les ouf, les ouaves, les toqués-toqués. Malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi. Chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos. Comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le
le temps passe vite et